Voisin, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Amélie Beaucourt.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, l'émission se penche sur ces pigments de couleur pulvérisés à la bombe ou déposés de la pointe d'un marqueur, contre la paroi froide d'un train, sur la façade triste d'un immeuble, sous un pont ou dans les couloirs sombres des métros. Vitrine de la culture hip-hop, propulsée des wagons de métro new-yorkais jusqu'à nos galeries d'art parisiennes, le graffiti n'a pas toujours eu bonne presse. Aujourd'hui encore, les capitales d'un côté les intègrent dans leur circuit touristique et de l'autre les effacent. Face à grands coups de brosse. De quoi s'interroger ? Qu'est-ce qui distingue un beau graffiti, celui devant lequel on se prend en photo, d'un tag qui attire les foudres des pouvoirs publics ? La ville peut-elle être une toile grandeur nature ? Qui a le droit de s'y exprimer et comment ? Pour répondre à toutes ces questions, deux invités avec nous pendant ces 48 prochaines minutes. Le journaliste Karim Madani, qui dans son dernier roman nous offre une plongée dans les sous-sols du métro parisien des années 80, 90 et 2000. Ça s'appelle « Tu ne trahiras point » et c'est paru aux éditions Marchiali. Avec nous également, en duplex des studios de France Bleu Nord, Julie Valin, sociologue et autrice du livre « Gouverner les graffitis » aux presses universitaires de Grenoble. Elle s'est penchée sur les politiques de la ville en matière de graff. Nous ferons aussi une escale à Dakar aux côtés de Docta, l'un des pionniers du graffiti sénégalais. Pour participer à l'émission, nous raconter comment le graffiti est perçu dans votre ville, appelez-nous dès maintenant. Le numéro WhatsApp, c'est le 337 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Bonjour Karim Madani.
Bonjour.
Bonjour Julie Valin.
Bonjour.
Karim Madani, la quatrième de couverture de votre livre, il figure cette expression « graffeur vandal ». Est-ce qu'on peut la considérer aujourd'hui comme un pléonasme ? Est-ce qu'à l'époque, en tout cas, le graffe, quand il a vu le jour, graffeur et vandal étaient des synonymes ?
Alors déjà, je voulais juste faire un petit rectificatif par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Enfin, du coup, quand vous avez présenté le bouquin, alors c'est pas un roman.
C'est un récit,
ce qu'on appelle de la narrative non-fiction, journalisme narratif, journalisme littéraire. Mais tous les faits sont...
Parce qu'on va y revenir, les faits que vous racontez se sont déroulés.
Tous les faits sont exacts, sont factuels, sont déroulés. Donc rien n'est romancé. Après, il y a le style d'écriture, évidemment, qui apporte cette touche littéraire. Mais sinon, tous les faits sont vrais. Et puis on a tout fait pour protéger les coupables aussi dans cette réalisation. Pour en venir, effectivement, jusqu'en 80, alors il me semble que jusqu'en 97, 98, il n'y a pas de. Entre 82, premier graphe à Paris, premier tag graphe à Paris, jusqu'en 97, 98, le terme de graffiti vandal est un terme pléonastique parce qu'en fait. Il n'y a pas encore déjà cette... je pense que là, des explications plus précises de la part de Julie, sur les politiques de la ville. Mais il me semble, en tant que Parisien pur jus, qui a observé un peu, qui était là aussi à cette époque-là, il y a très peu de murs, il y a très peu de murs autorisés. Je pense que globalement, pour ce qui est de Paris, que je connais, c'est très hostile. La ville est super hostile au graffiti. Il n'y a pas encore l'engouement autour du street art. Il n'y a pas encore la mode du street art qui va déferler avec les Banksy, les Bristol, le 13e arrondissement, et tout est super beau et c'est bien. Mais il y a encore un côté, le graffiti, c'est un truc, on le voit dans les premiers, d'ailleurs, souvent dans les journaux télévisés de l'époque, dans les reportages, on s'aperçoit que le graffiti est considéré comme un truc limite proche de la délinquance. C'est de la délinquance, en fait, pour les gens, pour la plupart des gens, en fait.
Alors, l'histoire du graffiti, elle remonte aux États-Unis dans les années 70. On ne sait pas exactement si on est entre New York et Philadelphie. Je crois qu'on se pose des questions sur l'origine. En tout cas, c'est l'une des deux villes qui a vu émerger ce mouvement. Qui est-ce qu'ils étaient, ces Américains qu'on appelait des « writers » et qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire en écrivant leur nom, comme ça, leur blase, comme on dit dans le jargon, dans la ville ?
Bon, en fait, le truc, c'est vrai que probablement le graffiti est né à Philadelphie. Et il a très vite voyagé jusqu'à New York, sachant que la courte distance qui sépare les deux villes a fait en fait que très vite ça s'est propagé sur New York. Mais le graffiti en fait est né à New York. On peut pas comprendre l'histoire de la naissance du graffiti à New York si on met pas ça en parallèle avec la naissance du mouvement hip-hop en fait, et surtout la criminalité. Ça veut dire que New York en 77 par exemple, c'est une ville qui a qui est en rupture, comment dire, qui est en faillite budgétaire. C'est une des villes les plus dangereuses des États-Unis. C'est une ville qui est, c'est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Et du coup, le graffiti, donc il y a beaucoup de, donc il y a une espèce d'inflation aussi de gangs, beaucoup de gens qui meurent. Et c'est une manière, le graffiti est une manière de sortir de ça par ce qu'on appelle, je veux dire, c'est une des bases du hip-hop, le graffiti, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il y a le rap, la danse, le DJing, mais le graffiti est la quatrième branche de ce mouvement, qui est un mouvement quand même où il faut sortir un peu. Ce qu'ils disent souvent les Américains, c'est qu'on a réussi à sortir du chaos. On a sorti une culture à travers le chaos. On a sorti un élément à travers la désolation urbaine. Et Afrika Bambaataa arrive avec ça, avec les Zulu Nation. Le graffiti arrive vraiment là-dedans, dans un truc de, il faut sortir de l'autodestruction et trouver quelque chose de constructif et sortir de cet anonymat. Un des premiers taggers s'appelle Taki 183. C'est un gars qui vit Washington Heights, dans le nord de Manhattan. Et c'est un des premiers qui met son nom. C'est un livreur de journaux. Donc ça devient viral comme ça. Il y a un côté, une espèce d'expression, on sort du chaos. Et on s'affirme en tant qu'individu dans une société en fait qui nous invisibilise, tout à fait.
Ouais. Julie Valin, est-ce que vous savez comment la municipalité de New York à l'époque a réagi à ça? Comment est-ce que ça a été perçu?
Oui, alors bonjour et puis merci pour votre invitation. La municipalité de New York, en fait, elle réagit, je pense que c'est un truc important à avoir en tête, elle réagit après les galeries. Hein, c'est-à-dire que quand il y a les premiers auteurs de graffiti qui commencent à s'exprimer dans les rues, il y a tout de suite des photographes qui s'intéressent à eux, des gens du monde de l'art, du marché de l'art, qui s'intéressent à eux, qui les invitent et qui voient tout de suite le potentiel artistique, la dimension esthétique de leurs expressions, avant même d'assimiler leurs pratiques à des pratiques criminelles, voire à un terreau que décrivait très bien Karim Madani, qui est un terreau assez compliqué à ce moment-là dans la vie new-yorkaise. Donc les pouvoirs publics s'y intéressent notamment et surtout en fait dans les entreprises de transport, parce que ce sont les entreprises de transport qui, propriétaires des rames sur lesquelles circulent beaucoup de graffiti, sont embêtées par les coûts que représentent l'effacement, le nettoyage des rames, etc. Et d'une manière similaire, alors on verra que tous les parallèles ne sont pas possibles entre New York et Paris. Et il y a même beaucoup trop de parallèles qui sont faits, je pense, entre l'histoire new-yorkaise et l'histoire parisienne. Mais en tout cas, c'est un parallèle qui peut être fait. C'est du côté des entreprises de transport, où en fait, il y a des métros qui ne sont, sont pas très reluisants à cette époque-là. Le métro, il est abîmé, il y a plein de dégradations, il y a des choses qui sont vieilles, il y a des choses qui sont un peu crado. Et le graffiti, bah, en fait, c'est une altération de la qualité des rames qu'on peut considérés comme une dégradation si on ne leur confère pas de valeur. Et du coup, là, on peut imputer une responsabilité à des gens. On peut dire, bah là, il y a des gens qui sont responsables de la dégradation du métro. Et du coup, la course contre les graffeurs qui est menée par les entreprises de transport en commun, donc la MTA à New York, la Metropolitan Transport Authority, ou la RATP à Paris, et puis d'autres entreprises de transport en commun dans des métropoles, bah, c'est aussi de cibler un responsable, un groupe responsable d'un délabrement, d'une dégradation du métro qui, en fait, à ce moment-là, dans les années 70 à New York, puis dans les années 80, fin des années 80 à Paris notamment, et en fait une accumulation de plein de choses. Donc il y a aussi à un moment des coupables idéales, enfin des figures alors, qui effectivement font quelque chose de répréhensible, mais contre lesquels on va pouvoir mettre tous les moyens juridiques et aussi après essayer de déposer plainte pour récupérer des amendes et financer des formes de remise en forme et de remise en propre du métro.
Alors on va revenir effectivement sur le lien entre graffiti et réseau de transport un peu plus tard dans l'émission. Vous, Julie Valin, vous avez commencé vos recherches sur le graffiti et les politiques de la ville lorsque vous étiez dans une troisième ville qu'on n'a pas encore évoquée, c'est Berlin, grande ville du graffiti pour ceux qui ont déjà pu y mettre les pieds. Qu'est-ce qui vous a frappé à l'époque sur la différence de traitement d'un tag à un autre? Je crois qu'il y a une petite anecdote en particulier qui vous a conduit à mener ces recherches.
Oui, vous êtes bien informé. Effectivement, Berlin, moi, je ne découvre pas le graffiti, donc c'était au milieu des années 2000. Je ne le découvre pas spécialement, seulement par le mouvement hip-hop, hein, parce que les écritures murales, elles proviennent de plein d'endroits. Il y a du graffiti punk dans les années 70, il y a du graffiti politique dans les années 60, et puis depuis des lustres, il y a des graffitis politiques un peu partout. Il y a aussi des artistes qui s'expriment dans l'espace public, ou en tout cas des gens qui se revendiquent comme artistes qui s'expriment dans l'espace public depuis longtemps. Et à Berlin, quand j'y suis au milieu des années 2000, 2000, il y a cette profusion en fait d'écriture, d'expression murale dans une ville qui n'est pas encore complètement dense, dans laquelle il y a pas mal de dents creuses, il y a pas mal d'espaces d'informalité, hein, des squats, des espaces culturels informels, etc. Et donc dans tous ces espaces un peu libres qui font la qualité, je trouve, de la vie à Berlin, bah, il y a une créativité incroyable qui est assez, bah, voilà, quand on a 20 ans, c'est assez frappant, c'est assez génial, c'est assez grisant. Et puis de l'autre côté, il y a le jubilé des 20 ans de la chute du mur de Berlin qui se prépare, avec une municipalité qui va faire refaire aux artistes des années 90, enfin de 92, qui étaient venus peindre sur la façade est, donc la façade inaccessible du mur de Berlin à cette époque-là. Elle les invite à revenir refaire exactement à l'identique les mêmes fresques, en reconstituant très bien le mur, en mettant une sous-couche, en mettant les œuvres et en même temps un vernis anti-graffiti sur les œuvres, avec des petits cartels pour les touristes, pour leur expliquer qui a fait ça et qu'est-ce que ça veut dire. Et donc il y a une sorte de patrimonialisation, une extrême patrimonialisation des peintures historique de l'East Side Gallery, du mur de Berlin, qui contraste énormément avec le foisonnement, la spontanéité, la liberté d'expression dans d'autres murs à côté, sur lesquels, bah, finalement, les graffitis ne sont pas légaux, en fait, hein, légaux, ils ne sont pas autorisés. Et donc, c'est ce contraste entre l'intervention patrimoniale des pouvoirs publics d'un côté et le laisser-faire ou l'effacement à côté qui commence à me poser des questions sur que font les pouvoirs publics.
Alors, on a reçu sur Facebook un témoignage d'auditeur, c'est Emeric de Kinshasa en RDC qui nous dit « Je trouve que cette discipline doit être encadrée pour que des graffeurs aient des espaces spécialement réservés à leur art, pour qu'ils ne graffent plus n'importe où, ils épargneraient les propriétés privées et les édifices publics. » On sent que, et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, Julie Valin, c'est que est-ce que c'est finalement l'endroit où on tague qui pose problème ?
Ah oui. Oui, oui, ça pose problème de venir s'exprimer sur le bien de quelqu'un. C'est un problème juridique, hein, de dommage au bien, qui a été d'ailleurs requalifié au milieu des années 90 en France, hein, sous l'effet du mouvement graffiti et des problèmes que ça posait à la RATP, à la SNCF. Enfin, il y a eu un durcissement de la loi en 94 quand le code pénal a été repris, mais ce dommage au bien, il existait déjà depuis l'ancien code pénal. Il y a aussi la question de l'injure, hein, quand on écrit un contenu qualifiable d'injurieux en termes de droit, parce qu'on insulte quelqu'un, parce qu'on fait offense à certaines valeurs, etc. Mais là aussi, il y a des problèmes juridiques qui sont très forts. Donc, ce n'est pas seulement le lieu, hein, ça peut être aussi le contenu quand on parle d'injure. Mais oui, l'endroit sur lequel on graffe, on peint, pose problème. Et en même temps, ça pose problème, mais des fois, ça ne pose pas problème. Donc, il y a aussi les acteurs qui qualifient, qui sont propriétaires de ce lieu. Est-ce qu'ils veulent faire des esthétiques qui se déposent dessus ? Est-ce qu'ils les considèrent comme des dégradations ou pas. Donc il y a aussi le regard porté par les gens sur les lieux sur lesquels on graffe, et c'est plutôt ça, moi, j'essaye que de montrer dans mon bouquin, c'est comment le regard des gens, et notamment des autorités publiques, mais aussi de certains propriétaires, mais aussi des artistes, des graffeurs, comment le regard sur ces lieux a évolué, ou évolue différemment selon les lieux.
Alors l'auteur du graffiti, on suppose, peut aussi être un des facteurs qui pousse à considérer le graffiti plutôt comme quelque chose qui va être valorisé artistiquement ou comme une dégradation. Karim Madani, vous racontez que ce que vous venez de nous dire, comme la culture hip-hop, le graffiti est arrivé en Europe, non pas par les quartiers populaires qui voulaient imiter ce que faisaient les Américains, mais par une classe branchée qui a vu un mouvement artistique là-dedans. On est à quelle période à ce moment-là à Paris, quand le graffiti arrive ?
82, 83 ? Le hip-hop, en fait, au-delà du graffiti, hein, la culture hip-hop, la musique est ramenée par des bourgeois parisiens, en fait. Ce mythe du rap créé par les gens de quartier, par les gens populaires, quartier populaire, des fils d'ouvriers ou des lumpen prolétariat, est complètement faux. En fait, le graffiti est arrivé par qui ? Est arrivé par des gens qui, déjà des journalistes branchés, éclairés. Radio Nova, Bizo sur Actuel, tous ces magazines, en fait, sans parler de certains rappeurs comme les frères Cassel, Rockin' Squad, son frère dont la mère était rédactrice en chef d'un prestigieux magazine à New York, sans parler de Philippe Lehman, petit-fils de la banque Lehman, alias Bando, un des pionniers du graffiti, un gros cartonneur, qui vient aussi de ce bon, qui vient bah, comme au vu du pedigree de la banque, vient pas non plus d'une cité HLM. De Seine-Saint-Denis. Donc voilà, donc tout c'est ce qui est assez intéressant, c'est que c'est et puis l'aller-retour, il faut s'y remettre à l'époque. Un voyage à New York coûtait un bras, voire deux jambes à l'époque. C'est plus du tout comme aujourd'hui où ce tourisme de masse qui fait que toutes les destinations sont rendues beaucoup plus faciles. C'est vrai que c'était une espèce de je pense qu'il fallait quand même des moyens considérables pour pouvoir amener une culture, voyager et la documenter. Et donc c'était pas accessible du tout au lumpenprolétariat de quartier. Tous les gens de quartier, même que ce soit en banlieue ou à Paris. Quand j'étais gamin, dans les années 80, quand on me parlait de New York, j'avais l'impression que c'était sur notre planète. En fait, j'étais fan du truc et tout, mais les gars qui venaient, qui partaient, en fait, c'était que des gens de bonne famille, en fait. Donc du coup, tout de suite, ce qui fait que c'est pour ça que je parle dans mon bouquin de lieux, de magasins comme Ticaret, où on vendait des accessoires de la culture hip-hop à des prix astronomiques. Personne ne pouvait se les offrir, à part des touristes allemands et des touristes hollandais qui venaient faire le pèlerinage à Terrain Vague de la Chapelle. Et donc voilà, donc c'est cette grosse contradiction qui est intéressante, et puis qui a permis aussi plein de mélanges sociaux via le graffiti, avec des gens totalement improbables qui ont fait des rencontres qu'ils n'auraient jamais fait autrement que par le graffiti, en fait.
Alors on va donner la parole tout de suite à un autre pionnier du graffiti. On va faire escale avec lui à Dakar, au Sénégal. C'est le graffeur Docta qui est en ligne avec nous. Bonjour Docta.
Bonjour.
Docta, je l'ai dit, vous êtes l'un des pionniers du graff au Sénégal. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment tout ça a commencé pour vous? Est-ce que vous vous souvenez de votre premier tag?
Je reviens aussi. J'ai vu l'intervention de, je ne sais pas comment il s'appelle.
Karim Madani.
Karim, il a raison, parce que de toute façon, la culture hip-hop venait par, je vais dire, par voyage. Même moi, tous les bouquins que je recevais de New York et tout ça, c'était un cousin qui vivait aux États-Unis, qui venait en vacances, qui m'emmenait ça. Et nous tous, tous les cassettes ou vidéos qu'on avait vues, ça venait de là-bas. Et c'est des gens qui voyageaient qui l'amenaient. Après, les quartiers populaires se sont vus que cette forme d'expression les parlait. Ils sont appropriés de cette expression-là. Moi, personnellement, j'ai appris le graffiti parce que déjà, en 84, nous, on dansait. En étant tout petit, on écoutait du rap pour pouvoir se sentir in, se sentir être dans le move, comme on dit. Et tous les magazines que je recevais, il y avait toujours des parties réservées au graffiti. C'est de là où moi j'ai appris à faire du graffiti en copiant les lettrages de telle ou telle personne qui me permettait d'avoir mon identité. Et en même temps, étant rappeur, danseur en même temps, à un moment, j'ai eu la chance, en 86, 88, j'ai eu la chance de sortir de chez moi, parce que les murs de chez moi étaient mes premiers supports où je m'exprimais. J'ai eu la chance avec un projet qui s'appelait Septetal, qui était de rendre Dakar propre, parce qu'à un moment, Dakar était très sale, mais c'était donné aux associations de quartier, les associations sportives culturelles qu'ils appelaient AEC, qui faisait ce projet-là, et ils prenaient des gens qui faisaient de la peinture dans le quartier, ils donnaient de la peinture pour les permettre à s'exprimer, mais avec des conditions qui étaient d'écrire le nom de l'association sur un mur, mm-hmm. de faire l'image d'une personne qu'on considère qui est respectée dans le quartier, ou d'un marabout, ou d'un joueur qu'on a perdu en cours de route. Et après, on est laissé quartier libre pour faire notre fresque sur d'autres surfaces. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une fresque sur le mur de grand-père, ça veut dire de ma mère, qui c'était un monsieur qui sortait jamais de chez lui, mais le jour où je faisais cette fresque-là, qui est restée 12 ans devant sur ce mur-là, le monsieur est sorti, tout le quartier se demandait qu'est-ce qui se passe. On me dit c'est son arrière-petit-fils qui était en train de faire une fresque. Et ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes et de voir autre le monde en utilisant mon graffiti. Au lieu d'en faire juste un truc d'égocentrique, je l'utilisais aussi pour sensibiliser, conscientiser les populations par rapport à différentes situations. Et maintenant, ça a pris de l'ampleur parce qu'après, il y a eu d'autres qui sont mis dans la donne. On a essayé de développer ça, pas juste au Sénégal, mais ça a fait boule de neige dans toute l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest.
Docta, justement, pour promouvoir cette pratique, vous avez créé le festival Festigraph à Dakar, qui malheureusement est en pause, on va dire, depuis 2 ans pour les raisons sanitaires que nous connaissons. Un festival qui a aussi pour but d'apprendre aux jeunes le graffiti dans les règles de l'art. Comment est-ce que vous les accompagnez, ces jeunes ?
Déjà, Festigraph, c'est une plateforme qui permet à l'artiste graffeur de pouvoir s'exprimer, partager son quotidien avec la population, mais aussi échanger avec d'autres artistes qui ont un vécu différent, mais qui les permet de pouvoir développer des techniques. Et tous ces jeunes qui ont eu à tourner autour de nous, parce qu'à créer Festigraph, ça a été poussé par cette demande qui était, nous, on voulait apprendre du graffiti, puisqu'un graffiti, c'est une expression libre. On pouvait pas, une seule personne ne pouvait pas donner son style à tout le monde, ou tout le monde allait le copier. Il fallait que ça soit démocratique, mais que chacun puisse avoir les bases du graffiti, après développer son propre style. Parce que personne ne peut développer le style de l'autre. Et c'était important aussi de pouvoir donner... sur la même vision, on s'est mis que faire du graffiti, faire partie d'une communauté, c'est aussi avoir la responsabilité de dénoncer ou aussi de toucher du doigt ce qui ne marche pas.
Mais donc ça passe forcément par des messages engagés pour que ce soit bien perçu.
Exactement. On parle de la politique, on parle de l'éducation, on parle de l'insécurité, on parle de de l'éducation. On parle de notre quotidien constamment parce que c'est les réalités qu'on vit tous les jours. Au lieu de parler de Docta, c'est un seul élément parmi des millions de personnes, mais parler d'une situation que ces millions de personnes partagent est plus important et pour nous, c'est l'orientation qu'on a donnée. C'est un graffiti très engagé qui s'est propagé dans toute l'Afrique de l'Ouest et ces jeunes qui, ça fait parce que là, on est à la cinquième génération qu'on est en train de former, ces jeunes-là, eux aussi, ils ont développé leur manière de voir la chose et puis ils sont en train aussi de booster parce que eux, ils ont eu les bases, ils ont développé le style, ils sont en train de former d'autres jeunes. Donc ça fait vraiment une continuité dans la chose parce que en tant qu'association depuis 1994, et cette association, c'est la première association de graffiti en Afrique qui nous a permis aussi de travailler avec d'autres personnes qui sont dans d'autres pays, au Bénin, Togo, Burkina Faso, Kinshasa, Congo Brazza. Même au Kenya, on est en train de préparer un festival de graffiti pour permettre à ces artistes de pouvoir avoir une plateforme sur laquelle ils vont pouvoir échanger et permettre à ces personnes qui s'intéressent au graffiti de pouvoir avoir les bases et développer leur style.
Et est-ce qu'on peut en vivre aujourd'hui du métier de graffeur, graffeuse ?
Nous, on vit du graffiti. C'est notre boulot. On paye pour travailler avec des ONG, à travailler avec la municipalité, à travailler avec les privés, mais en restant aussi, comme on dit, nous, on ne prostitue pas le graffiti parce qu'à la base de notre initiation propre ou qu'on a fait à d'autres, on reste libre dans la création, on reste libre, même si on nous dit à la base, on aimerait bien avoir ça, mais artistiquement, on est libre de créer et de la créer et donner notre vision par rapport aux données sur lesquelles on s'est basé pour faire un boulot.
Pour revenir, avant de se quitter, Docta, sur le festival Festigraph, est-ce que vous avez une visibilité sur l'édition de cette année ?
On le fera en mois de mai, parce que la Biennale de Dakar a bien voulu nous labelliser le festival. Ce sera du 14 au 27 mai, parce que chaque année, chaque deux ans, quand il y a la Biennale de Dakar, on le fait exprès avec l'association de faire rapprocher le festival un peu dans la Biennale pour que nos invités puissent découvrir ce gros marché d'art visuel pour qu'ils puissent avoir une vision de ce qui se fait et s'ils sont intéressés d'avoir des collaborations qui peut se développer pendant des années. Cette année, puisqu'on va parler de ce qu'on appelle Dakar, la beauté de Dakar, et la liberté d'expression sur laquelle on insiste beaucoup, d'où pour laquelle notre parrain structuré sera le président Mamoudou Dia, qui disait « je préfère être libre en prison qu'être en prison dans la rue ». Donc cette liberté-là, nous, on va l'utiliser cette année pour pouvoir s'exprimer sur 12 quartiers de Dakar et deux régions du Sénégal.
Merci beaucoup, Docta, d'avoir été parmi nous. Donc, le festival Festigraph, qui aura lieu du 14 au 27 mai à Dakar. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Docta. Et on va continuer notre discussion dans quelques instants. Nous attendons toujours vos appels sur le WhatsApp de l'émission si vous souhaitez participer. Le numéro, c'est le 337 64 45 51 41. Tout de suite, sur RFI, on écoute Urbanisme du rappeur Vald.
À ces jeunes, il faut les voir et les entendre. Vu qu'ils braillent tous les soirs et puis qu'ils graillent de la merde. Faut les voir faire la queue devant les Grecs et puis les soirs. Pour de la drogue et de la dope, ils fument du touch, mais c'est quoi ? À mon époque, j'avais des blocs. Car il y avait déjà des blocs, mais ces blocs ils étaient propres. Y avait des fleurs, y avait des portes. Maintenant c'est glauque, y'a que des halls avec des jeunes qui ne font rien mais qui dégradent et puis qui boivent et puis qui schlinguent. Ils parlent de quoi sinon de rien, de flingues, de vie de chien, avec la misère du monde sur les épaules, se lever tôt.
jure. Alors bon, qu'ils fassent le mur une fois pour toutes et qu'ils dégagent. Qu'ils aillent loin, oui très loin, j'habite au-dessus. À mon époque, j'avais des profs, des gosses qui aimaient le taf, des forces de leur gros top et puis des punks dans leur underground. On était fun mais pas grossiers, on était jeunes et inconscients. Mais oui, le gueule à doter sur les murs du bâtiment. C'est des chômeurs, des drogués, je te promets, ça ne vaut rien. C'est des voleurs, des paumés, je les connais, c'est vaut rien. Y'en a qui graffent, y'en a qui taguent, qui saccagent l'escalier, qui pissent dans l'ascenseur. Non mais bon sang, faut être damné. Moi pour ces jeunes, j'ai pas de censure. Non, ils ont rien dans le cul, sont bons qu'à se plaindre du décor. Alors que c'est eux qui n'ont pas su en prendre soin, moi dans mon coin. Je regarde la déloche, je les insulte de bon cœur. Et je déteste leur air moqueur, et je déteste par-dessus tout mes réveils au quartier. Assis seul, moi j'étais riche, assis seul sur ma péniche. Oui, je déteste mon quartier, tout est moche, tout est gris. Y'a tout qui hoche, c'est terrible. Assis seul, moi j'étais riche. Assis seul, moi j'étais riche. Quand je suis né, il y avait des tours et puis des tours. J'avais des potes qui jouaient des fous, séchaient les cours et séjournaient en bas des tours, je comprenais pas. Je disais comme ça, mais gros, t'es fou, on voit des tours toute la journée. Toi, tu te barres pour y retourner, fais des détours, au moins je sais pas. Fais le tour, va voir autre chose, fais des sous, quoi je t'ai dit. En bas des tours, j'ai fait des sous entre les cours et puis les tours. J'aime mieux les sous pour faire les courses. Oui, il y a des cours et puis des courses et puis des sous en bas des tours et les yeux rouges, tout est beau. C'est beau, même ici-bas, c'est beau lorsque t'es. Sinon c'est fou ce que c'est sale. Et oui c'est flou, essuyez tout c'est grave. Excusez-nous mesdames, mais ce n'est sûrement pas nous. C'est des gars, ces vieilles peaux, je les connais. Des pétasses qui ont le trépas. De bien haut, elles nous regardent et nous épargnent jamais trop. Un journée, puis c'est mort. Tous les autres font les journaux. C'est légendaire d'être aussi. Assis seulement j'étais riche, assis sur ma péniche. J'aimerais quitter Belize et vivre le rêve d'être paysan dans les rangs. Je sens le danger, je ne pense qu'à manger. Me venger, oui mais de quoi? J'ai ma pensée que j'ai pas de plan B. Ce n'est pas moi mais ce qui m'entoure. Je m'en fous, je lève la voix. Mais tu ne sais pas ce qu'on encourt. En bas des tours avec des fous quand font des fours. Des folles quand font des tonnes. Des doigts qui foisonnent tout. Si bien que parfois j'en perds la boule. Alors le soir avec du shit.
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI, une émission consacrée aujourd'hui au graffiti. Avec nous en duplex des studios de France Bleu Nord, qu'on salue au passage, la sociologue Julie Valin, autrice de « Gouverner les graffitis » aux presses universitaires de Grenoble et qui questionne les politiques publiques à l'égard des graffitis. Et avec nous en studio, Karim Madani, journaliste spécialiste des cultures urbaines qui publie aux éditions Marchiali un récit « Tu ne trahiras point, il fallait que je la fasse », dans lequel il retrace le parcours des pionniers du graphe parisien. Tu ne trahiras point, donc, Karim Madani, c'est l'une des trois règles du code des graffeurs. Qu'est-ce qu'elle signifie et quelles sont les deux autres règles?
Alors, je tenais déjà, je voulais juste refaire ce que j'ai trouvé vraiment une belle, cette phrase-là de Docta. Je ne sais pas si quelqu'un me dit qu'il vaut mieux être libre en prison plutôt qu'en prison dans la rue.
C'est une très jolie phrase,
c'est la phrase de ma journée, du coup. Dans les 10 commandements, on va dire les 5 commandements importants dans cette Bible, de ces tablettes du graffiti, c'est le plus important, c'est effectivement tu ne trahiras point. Dans le sens où il y a l'époque, enfin moi l'époque dans laquelle je, enfin qui apparaît dans mon bouquin entre 96, quand même globalement entre 96 et 2000. En tout cas, une bonne partie des années 90, c'est qu'il ne fallait surtout pas livrer son camarade à la police en cas d'arrestation et surtout ne pas donner de nom. C'était vraiment une règle de base. Parce que c'est vrai qu'il faut voir que contrairement à ce qui se passait par exemple à Dakar, dans le graffiti politique engagé, là on est quand même dans un graffiti antisocial, dans un graffiti quand même un peu nihiliste. Je veux dire, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas vraiment de sens de la communauté. C'est quand même chacun, les équipes, il y a beaucoup d'équipes qui sont là, beaucoup de crews, mais c'est quand même chacun globalement pour sa gueule, avec des égos hypertrophiés. C'est ce qui aussi fait partie de la beauté de cette époque, de cette folie, d'une certaine manière, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Et du coup, si ce n'est, c'est trois règles de base. Donc de ne pas trahir, de ne pas toyer, c'est-à-dire de ne pas recouvrir le graffiti ou la fresque ou le tag de quelqu'un avec... Euh, avec son propre parce que c'est une, soit une déclaration de guerre ou soit c'est vraiment une, c'est comme une espèce de déclaration de guerre ou une insulte, c'est vraiment un manque de respect. Et je crois qu'il y a alors et aussi voilà, et t'as ne jamais acheter de bombes, toujours les voler, parce que je pense le type qui, enfin voilà, le graffeur qui achète des bombes commet aussi une violation du code du graffiti, ouais.
Et ça signifie qu'il y a une démarche aussi anticapitaliste derrière ça, ne pas acheter sa bombe de peinture.
Par exemple, dans le cas de des OBK de Comer dont je parle dans mon
votre personnage principal.
Ouais, lui en fait, il est clairement dans un truc anticapitaliste, ouais. Lui, c'est un volé, c'est un style de vie. C'est vraiment un style de vie qui est un peu hérité aussi, inspiré du mouvement Low Life à New York dans les années 80, où les types volaient, passer leur temps, c'est la culture du vol, du boosting. Ils volaient, avant de voler des polos Ralph Lauren, ils volaient quand même des céréales, du lait, des couches pour nourrir des gens de leur quartier à Brooklyn. Et lui, il est là-dedans, il a un problème avec l'argent, Comer, il a vraiment un problème avec, puis ça a fait des problèmes dans sa famille, donc c'est, depuis qu'il est gamin, il sait que l'argent pourrit les gens, comme diraient certains. Et du coup, il est dans ce truc-là de voler, de la débrouillardise. Il y a un côté un peu social là-dedans qui est intéressant. Et surtout, je veux dire, c'est vrai qu'il y a l'aberration d'acheter une bombe légalement qui servira à une action illégale, quoi. Voilà.
Alors, on va partir à Yaoundé, au Cameroun. On a un auditeur en ligne, c'est Rachid. Bonjour, Rachid.
Bonjour, Amélie.
Alors, Rachid, vous êtes architecte, je crois. Donc, vous avez, je suppose, une vision des graffitis un peu différente des autres. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un graphe? Comment est-ce que vous percevez ça dans l'espace public?
Bon, personnellement, vu le côté artistique d'un graffiti, je dirais que le graffiti sert, pour la plupart du temps, à agrémenter nos rues, nos murs et tout. Bon, le véritable souci ici, c'est que on a beaucoup de graffitis qui sont faits parfois de manière un peu, on va dire, anarchique. Et au niveau des coins de rassemblement de jeunes, des terrains de basket, des terrains de football, issus des murs. Malheureusement aussi, c'est pas encore pris en compte par nos politiques urbaines, tout ça. On ne planifie pas encore ce genre de choses. Et c'est ce qui est vraiment dommage, parce que dans la ville de Douala, par exemple, sur le mur du lycée d'Akwa, on a un très beau graffiti qui longe tout le mur et qui donne une toute autre appréciation artistique de ce mur-là, qui vieillissait déjà et qui croupissait sur l'effet des intempéries.
Qui a été, ce graffiti dont vous parlez sur le mur de l'école, il a été fait légalement?
Oui, c'est légalement. Je crois que ça avait été organisé par l'Institut français. Ici à Douala au Cameroun, donc c'est légal parce que c'est là depuis longtemps et ça donne vraiment une toute autre appréciation du mur, parce que comme je dis, les intempéries, tout ça a dégradé un peu ce mur là, mais aujourd'hui lorsque vous empruntez cette rue là, c'est vraiment, ça agrémente vraiment votre parcours, quoi. Ça rend le parcours un peu plus dynamique.
Mais quelle différence vous faites, vous, entre un graffiti que vous allez considérer comme beau, comme artistique, comme quelque chose qui embellit la ville, et un tag anarchique, comme vous l'avez dit, qui va être fait peut-être à la va-vite ou dans des endroits où vous n'avez pas envie de le voir?
Bon, généralement, les tags à la va-vite, c'est généralement des tags dénonciateurs contre l'oppression, contre la liberté. Il y a certains parfois qui vont jusqu'à taguer le président de la République qu'il doit partir, genre, et faire des petits textes dans lesquels le président de la République doit partir, ce genre de truc. Bon, mais par contre, les graphiques que je trouve beaux, vraiment, c'est ceux qui sont planifiés, qui ont des autorisations et qui racontent quelque chose d'artistique. C'est-à-dire, par exemple, au niveau du lycée d'Akwa, on retrouve des visages, on retrouve un lion, une face de lion, les couleurs du pays, ça c'est intéressant. Et généralement dans certaines rues qui sont marquées par des joueurs de football, comme le célèbre Samuel Eto'o par exemple, à New Bell, il y a des murs qui ont été utilisés pour incruster son visage avec le maillot des lions, tout ça. Ça rend la ville un peu plus jolie, les rues sont beaucoup plus agrémentées. Par exemple, si vous passez dans une rue et que vous trouvez un graffiti, par exemple, injurieux, c'est pas joli, je trouve pas ça joli, moi. Mais c'est quand même parfois l'expression d'une certaine sensibilité, en fait.
On en revient effectivement à ce que disait Julie Valin à ce sujet, le contenu, le message qui est envoyé par le graffiti qui permet de, effectivement de faire ce clivage entre le graffiti qui est considéré comme joli et celui qui va plutôt déranger. Merci beaucoup Rachid pour votre témoignage. Julie Valin, justement, qui est-ce qui est chargé dans la ville de juger la beauté, l'utilité d'un graffiti plutôt que d'un autre?
Bah, je vais rebondir pour vous répondre sur ce que disait Rachid, votre auditeur à l'instant, qui était très intéressant, puisque la perception du beau, c'est le résultat d'une construction, hein, d'une construction sociale. Ça dépend où on est, quel âge on a, d'où on vient, comment on perçoit les choses. Le beau est quelque chose qui peut parfois être universel, mais enfin qui généralement est quand même l'objet d'une certaine construction. Et votre auditeur parlait de graffiti. Il disait les graffitis qui me dérangent, c'est ceux qui sont anarchiques, et ceux que j'aime bien, c'est ceux qui sont planifiés. Et en fait, je crois que c'est assez révélateur, ce discours, c'est assez révélateur aussi de ce que disent les pouvoirs publics en général. C'est-à-dire que peu importe les formes et les esthétiques, en fait. Alors, bien sûr, il y a des effets de tri des esthétiques, et on voit moins de lettrages qui sont sponsorisés par les pouvoirs publics que de jolies d'œuvres figuratives. Néanmoins, peu importe, parce qu'en fait, si on regarde ce qui se passe, par exemple, dans les friches culturelles, qui sont des espaces où on a institutionnalisé des pratiques culturelles différentes, avec différentes esthétiques, dans des anciennes casernes, ou dans des anciennes usines, ou dans des anciens squats, et où les pouvoirs publics reconnaissent la valeur de ces activités créatives un peu en marge. Bah, ici, le fait qu'il y ait beaucoup de tags, qu'il y ait beaucoup de graffiti considérés comme anarchiques, en fait, où ce fait-là est complètement toléré, et même accepté, et même on aime bien y venir pour y faire des photos, et on trouve ça cool et branché d'avoir des tags partout. Mais simplement, pourquoi on aime ça et pourquoi les pouvoirs publics, ça ne les dérange pas? Parce que dans ces endroits-là, c'est OK. Les pouvoirs publics ont dit d'accord, on va planifier que ici, vous pouvez faire ce que vous faites, ce que vous voulez, mais ça ne débordera pas. Ce qui pose problème, en fait, c'est le débordement, c'est le fait de ne plus avoir le contrôle en tant qu'autorité urbaine, autorité étatique ou municipale, de ne plus avoir le contrôle sur l'esthétique dans laquelle les gens évoluent dans la ville. Et donc, ce qui pose problème, c'est moins ce qu'on voit. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, mais c'est plutôt, est-ce qu'on a dit OK ou est-ce qu'on n'a pas dit OK? Est-ce que c'est maîtrisé ou est-ce que c'est pas maîtrisé? Un exemple tout bête, hein, mais quand il y a des films qui sont faits sur New York, où on veut essayer de reconstituer un paysage new-yorkais qui corresponde à l'image de marque carte postale, et ben en fait, les réalisateurs font appel à des graffeurs pour venir regraffer les murs, parce que ça fait partie de l'image de la ville, et qu'il y a tout un enjeu, et ça, les entreprises et le capitalisme l'a compris un peu avant les pouvoirs publics, mais en fait, l'image de marque, elle repose aussi sur des comportements et sur des images stéréotypées, justement, du graffiti comme quelque chose d'associé à certains quartiers, certaines catégories sociales, à tort ou à raison, plutôt à tort qu'à raison, mais en tout cas, ça fait partie des images de marque de la ville et des images différenciées. Quand vous voyez que dans le 20e arrondissement à Paris, il y a une relative tolérance à l'égard des graffitis dans certaines rues, dans certains espaces bien ciblés, mais c'est parce que les pouvoirs publics ont compris que si on laisse faire, si on laisse cette créativité anarchique s'exprimer, ben en fait, ça a plein de bons côtés pour la fréquentation, pour le tourisme, pour la déambulation, pour la diffusion des images d'un quartier sur Internet, etc.
Donc Julie Valin, pardon, le budget de la ville de Paris alloué au graffiti.
Alors, ce qui est sûr, j'ai pas les chiffres contemporains en tête parce que mon enquête, elle date un peu, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais ce qui est certain, c'est que le budget alloué à l'effacement à Paris est largement supérieur au budget alloué à la promotion, puisqu'à Paris, l'ensemble des graffitis sont effacés systématiquement par un système de marché public, en fait, qui est passé entre la direction de la propreté et des entreprises d'effacement qui viennent repérer et effacer les graffitis sur tous les murs de la capitale. C'est un dispositif qui est exceptionnel, hein, qui existe dans cette ampleur-là, dans aucune autre ville. La plupart du temps, les municipalités essayent d'effacer les graffitis dans les grands axes touristiques, sur le patrimoine, sur les biens publics. Et puis après, elles essayent d'inciter en fait, les propriétaires d'immeubles et de maisons à contractualiser avec des entreprises d'effacement ou à effacer eux-mêmes. Voilà, ils ont plutôt une démarche de facilitateur de l'effacement, sachant que c'est surtout les gens qui habitent dans leurs habitations, qui sont propriétaires, qui ont un souci de ça. Et quand on loue, peut-être que des fois, on est moins regardant.
En tout cas, l'un des endroits où on efface systématiquement les graffitis, c'est bien sûr sur les transports en commun, dans le métro. C'est l'objet de votre récit, Karim Madani. Les personnages vouent une véritable haine envers la RATP. Alors, je me suis renseignée, c'est Régie Autonome des Transports Parisiens. Je sais pas, c'est le surnom, la régie, vient de là. Donc, c'est la société qui exploite le métro à Paris. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Je vous propose d'écouter cet extrait du JT d'Antenne 2, l'ancêtre de la chaîne télévisée France 2, le journal de Bruno Mazur. Nous sommes le 1er mai 1991.
La Marseillaise en est encore toute retournée. Cette statue de la Révolution et ses sœurs du métro Louvre, toutes copies d'œuvres célèbres, ont subi l'autre nuit un bien spectaculaire outrage. La station entière souillée, ou selon les avis embellie, par un foisonnement de nuages multicolores que l'on nomme tag, bombage ou graffiti. Selon la RATP, les voyageurs ont fort peu apprécié.
Moi j'aime bien ce qu'ils ont fait parce que l'idée est marrante quand même, c'est de s'installer au Louvre, le musée, le graffiti s'installe au musée. Cette idée-là j'aime bien.
Ça veut dire que les taggeurs maintenant, s'ils veulent s'y mettre, voilà. Ça veut dire qu'ils peuvent niquer la plus belle station de Paris.
Ça va continuer, vous croyez?
Bah oui, je sais pas, mais à mon avis, ils s'arrêteront pas comme ça, ils vont tout niquer là. Ils vont tout niquer en 91. Voilà.
Bon matin, à son réveil, par une excentricité qui l'a mis à la veille. L'épopée graffiti qui a imposé son règne. Avant qu'on ne comprenne.
Vous voyez, mais y'a rien à croire, madame. Vous voyez, mec, c'est pas une publicité. On peut vous être idiote ou quoi?
Je suis idiote, alors.
Oui, vous êtes idiote. Vous savez combien ça nous coûte, toutes ces conneries?
Bah, c'est un.
5 milliards et des poussières, oui. Tous les ans. C'est vous qui payez, c'est moi, c'est tout le monde.
Alors, on l'a entendu dans cet extrait, l'une des plus belles stations de Paris, Louvre-Rivoli, sur la ligne 1, recouverte de tags. Alors, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds, la station Louvre, elle est juste en dessous du musée du Louvre, évidemment. Et les quais sont décorés de reproductions d'art, de sculptures, etc. Rien à voir avec les autres stations un peu plus grises, dans lesquelles on peut descendre sur d'autres lignes, peut-être un petit peu moins touristiques. Karim Madani, est-ce que vous pourriez rapidement nous expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi elle a eu lieu, cette attaque du métro?
Ouais, déjà je voulais juste, je crois qu'il y a André sur cette bande.
Oui,
André,
exactement.
Qui est un
célèbre. On entend dire le graphe arrive au musée.
C'est assez ironique, ça fait un peu penser à. Il n'a pas participé à l'attaque de contre le Louvre, mais on fait vraiment le type qui se, le criminel qui revient sur une scène de crime et qui veut parler aux flics et qui se délecte, c'est assez drôle. Alors en fait, l'attaque de la station Louvre a eu lieu rapidement. À la base, elle devait pas être ciblée, cette station. En fait, ce qui se passe, c'est que l'individu à l'origine de l'attaque de la station Louvre s'appelle Oeno, donc c'est un graffeur parisien assez très connu, et donc lui en fait avait repeint un wagon au terminus d'Ivry-sur-Seine. Il avait fait une espèce de personnage à Baudet, là, de cartoon américain, et du coup au dernier moment le métro à Ivry ne part pas. Il est bloqué, il est envoyé au bœuf, ce que la RATP appelle le bœuf, hein, une espèce de terminal pour nettoyer les métros. Donc lui, il est hyper frustré, il veut vraiment punir la RATP pour ça. Donc
le but d'un tag, c'est qu'il puisse défiler devant les...
Complètement, ouais. Il avait attendu pratiquement toute la nuit, qu'au petit matin, qu'il parte, et le métro n'est jamais parti. Donc il est hyper frustré, et il demande à des... Il essaie de lever une équipe de graffeurs pour faire une grosse attaque surprise sur une grosse station parisienne. Et il n'y a personne qui répond, à part de Stem et Gary. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, Gary, fils d'ambassadeur. Stem, pareil. Enfin, du coup, c'est marrant. Donc, ces trois fils de bonne famille.
Pas des gens des quartiers populaires.
Voilà, tout à fait, ouais. Et du coup, alors, ce qui se passe, c'est que la veille du 1er mai, en fait, tous les gens un peu qui sont dans la street culture, machin, sont très nerveux. Parce qu'on sait qu'il y a le défilé du Front National. Le défilé du Front National à l'époque, c'est pas le défilé du Front National d'aujourd'hui. Hein, je veux dire, c'est un défilé qui est quand même très tendu, qui est très dangereux dans le périmètre où il se trouve. Je crois qu'ils avaient balancé même un type à la Seine. Un jeune Marocain avait été assassiné par des skinheads. Donc c'est vraiment il y a tout ce que Paris concentre de fascistes, de nazis, de skins.
Tout un contexte politique, oui.
Très, très lourd. Et puis en 91, effectivement, le Front National est quand même fait un gros score. Enfin, c'est hyper tendu Paris à ce moment-là. Et Oneo décide de punir, d'une certaine manière, de faire un pied de nez au Front National, à la RATP, à la police, à la préfecture, en décidant l'attaque surprise éclair de la station Louvre, qui est un véritable carton. Hein. Je veux dire, le truc, enfin là on a écouté le JT de France 2, mais c'est, je crois que c'est dans tous les pays du monde où on en parle. Mm-hmm. C'est vraiment un premier attentat pictural entre guillemets avec une telle répercussion. Ouais.
C'est effectivement très impressionnant. Julie Valin, la dernière question, elle est pour vous. Si en sortant du studio de RFI, là, ici en région parisienne, je tague un wagon du RERC qui passe sous nos fenêtres et que Karim Madani observe depuis tout à l'heure parce qu'il est juste en face, qu'est-ce que je risque ?
Bah, vu que vous l'avez dit, là, on va savoir que c'est vous. Donc, vous risquez plus de choses que si vous ne l'aviez pas dit. Non, vous risquez quoi ? A priori, si vous en faites qu'un, il ne va pas y avoir des gros moyens qui vont être lancés contre vous parce que la police a quand même d'autres chats à fouetter que les auteurs de graffiti.
Mais si je suis récidiviste ?
Si vous continuez, il y a eu à une époque hein, des cellules anti-graffiti qui ont beaucoup travaillé et qui ont poursuivi beaucoup de gens et qui les ont mis en attente dans un procès pendant 10 ans avec des gens qui avaient des procédures judiciaires en cours et qui ne pouvaient rien faire. Donc au final, il y a eu un non-lieu à ce procès de Versailles, mais les poursuites ont été annulées. Mais au final, il y a des gens dont la vie a été arrêtée pendant une dizaine d'années. Ils ne pouvaient plus faire grand-chose et rien que ça, c'était déjà pas mal comme peine. Donc il y a eu cette cellule TAG qui a existé dans la police des réseaux ferrés. Elle a été dissoute, elle n'existe plus. Donc il n'y a plus cette compétence, on va dire, d'une équipe qui poursuit les gens et qui cherche à accumuler. En fait, hein, le but de la police était d'accumuler dans des fichiers un certain nombre de preuves contre certains graffeurs et d'avoir le plus possible en fait, de preuves des graffs qu'ils avaient faits pour ensuite leur imputer des dommages et intérêts très élevés. Parce que pour un seul graphe, on ne va pas faire toute une procédure contre vous. Je suis désolée de démystifier le truc, mais ça risque... Bon, on va vous l'effacer. Il ne va pas rester longtemps si les garages de bœuf de la RATP ne sont pas en travaux et que... Il y a à peu près du personnel dedans pour s'en occuper. Il va être effacé. Mais peut-être qu'il va circuler un peu. Et puis voilà. Et puis si on vous prend en flagrant délit, là par contre, vous aurez d'autres soucis. Voilà. Ce n'est pas une incitation ce que je fais. C'est simplement pour redonner ce contexte de répression policière qui a existé, qui a été très fort à un moment, qui existe toujours, mais qui n'est peut-être pas toujours une priorité. C'est plutôt les politiques d'effacement qui ont un vrai effet. C'est-à-dire que l'effacement, ça invisibilise la pratique, ça la rend inexistante à certains endroits et ça contraste avec les grandes fresques et les grands muraux figuratifs qui sont faits partout. Donc il y a une sorte de division en fait, des esthétiques qui est faite d'un côté par l'effacement et de l'autre côté par la promotion.
Alors Karim Madani, votre livre se termine justement sur ce que Julie Valin disait, le procès de Versailles qui est lu en 2001. Est-ce que vous pourriez nous donner des nouvelles des personnages qu'on a dans votre récit ? Qu'est-ce qu'ils sont devenus très rapidement parce qu'on doit rendre...
Voilà, la plupart s'en sortent plutôt bien. Je crois que Comer a bossé sur le nouveau logo de NTM. Il me semble qu'il y en a un qui a monté une marque qui s'appelle Bleu de Paname. Certains sont en galerie, connaissent. Et pour le policier principal, il aurait été accusé de viol. Donc c'est un peu moins glorieux. Enfin le chef de la cellule justement Gare du Nord anti-tag. Donc mauvais karma.
Merci beaucoup ouais. Karim Madani d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre « Tu ne trahiras point » est publié aux éditions Marcelli. Merci beaucoup à vous aussi Julie Valin. Votre livre « Gouverner les graffitis » est disponible aux presses universitaires de Grenoble. Vous étiez en duplex des studios de France Bleu Nord qu'on remercie. Et 7 milliards de voisins, c'est donc fini pour aujourd'hui. Demain, nous parlerons d'amour dans l'émission, celui qu'on rencontre sur son lieu de travail et toutes les difficultés qu'il peut y avoir à gérer sa relation au bureau. Faut-il garder sa secret, comment séparer vie professionnelle et vie privée. Appelez-nous dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. À demain, jeudi, même heure, sur RFI. Tout à l'heure.